Après ce point sur la situation du choléra, nous avons la chance d'avoir avec nous le docteur Dabiré, auquel vous pouvez adresser vos questions sur cette épidémie actuellement, qui sévit actuellement au Congo. Est-ce qu'il y a des questions pour le docteur Dabiré? Oui, passez la parole ici.
Merci, moi c'est Flavien Sans pour la compte de Planète Télévision. Docteur, 20 provinces de la RDC touchées par la choléra. Aujourd'hui, devant vous, quelles sont les précautions que vous pouvez donner au gouvernement pour sauver la population suite à cette épidémie de choléra? Merci.
Oui, allô? Oui, bon, et merci bien pour l'intérêt apporté au choléra. Et j'arrive justement d'une réunion du cabinet du ministre, qui d'ailleurs se tient toujours avec la mise en place, le renforcement de la coordination en matière de choléra. Il faut dire qu'effectivement, le choléra, comme l'a tout à l'heure signalé Florence, est une préoccupation qui perdure depuis quelques années, mais compte tenu l'augmentation des cas ces dernières semaines, il était nécessaire de renforcer la réponse et d'organiser les partenaires autour de la réponse et en appui au ministère de la Santé et du gouvernement de façon générale. Notez que le choléra est une problématique multisectorielle. Elle implique la santé, mais au-delà de la santé, nous avons d'autres partenaires qui sont impliqués. Il y avait déjà des mécanismes de coordination sous le ministère, sous la responsabilité du ministère du Plan, avec d'autres secteurs ministériels. Mais face à la létalité et à la morbidité remarquée ces dernières semaines, et le ministère de la Santé a pris les choses en main avec l'appui des partenaires. C'est à cette occasion que vendredi passé, nous avons, sur la base d'un plan qui a été actualisé, fait la mobilisation des ressources. Et les partenaires, donc, ce matin, sont retrouvés autour du ministre de la Santé pour proposer les commissions. Et si cette commission a été mise en place pour renforcer cette réponse au niveau national, mais cette structure sera aussi représentée au niveau des provinces, parce que ça se passe sur le terrain et les acteurs au niveau des provinces, avec l'appui des partenaires, sont en train de mettre en place les ressources, aussi bien dans le domaine de la santé, de l'eau et l'assainissement, la mobilisation de la communauté pour une meilleure surveillance et surtout appliquer les précautions essentielles qui sont l'hygiène, le lavage des mains et traiter l'eau avant de la consommer.
Merci pour ces conseils, docteur Dabiré. On a d'autres questions pour le docteur? Oui, mademoiselle.
Renate Massonda pour le compte de Raga Télévision. On nous a indiqué ce matin qu'un cas suspect du choléra a été détecté à Kindaboa. Est-ce vrai et quelles sont les mesures de prévention?
Bon, il faut dire que la surveillance est renforcée à tous les niveaux. Et Kindaboa a fait l'objet d'une vaccination l'année dernière. Et parmi les aires de santé, les cinq aires de santé les plus à risque sur la base d'une évaluation de risque, elle reste donc une zone à surveiller. Et la suspicion des cas est une démarche de surveillance épidémiologique qui permet, devant tout symptôme pouvant évoquer la diarrhée ou le choléra, qu'on fasse une investigation autour. Et c'est d'autant plus intéressant de savoir comment on arrive à détecter des cas suspects, quitte à les confirmer ou à les infirmer. Oui, nous travaillons dans toutes les aires de santé pour renforcer ces cas. Kinshasa fait partie des zones affectées. C'est vrai qu'actuellement, il y a moins de cas, mais nous avons un centre de prise en charge à Pakadjouma, un centre transitoire au Grand Kokolo, mais aussi ces zones que je viens de citer font partie des zones qui sont ciblées. Et une notification journalière est mise en place pour savoir que chaque jour, lorsqu'un cas nouveau apparaît, et bien sûr, il s'ensuit une investigation des laboratoires et une prise en charge subséquente.
Merci beaucoup, docteur. Est-ce qu'il y a encore une question sur le choléra, peut-être à Goma? Oui, je vois une main qui se lève à Goma, monsieur avec la chemise rayée. Ok, on prend une question à Goma sur l'épidémie du choléra.
Je suis trouvé au niveau de la RTNC, docteur. On mobilise de l'argent pour faire face à l'épidémie, mais on néglige les personnels traitants. À deux reprises, il y a eu grève à Goma. Est-ce qu'on a trouvé finalement une solution pour que les personnels traitants puissent réellement être épargnés eux-mêmes à l'exposition et vraiment faire le travail pour soigner les personnes victimes?
Ok, merci bien. Je crois que c'est une préoccupation que nous partageons tous. Effectivement, dans le cadre de la motivation du personnel, Et cette préoccupation a été prise à bras le corps depuis la discussion la semaine dernière. Le ministère s'est personnellement engagé à couvrir ses frais de prise en charge du personnel en termes de motivation. Il faut signaler que cette préoccupation est intégrée dans la réponse, dans ce sens que lorsque nous avons une épidémie de choléra, nous arrêtons le recouvrement de coûts et la gratuité, nous appliquons la gratuité des soins. Donc il y a une implication dans le recouvrement de coûts au niveau de la structure de santé et bien sûr la motivation du personnel. L'engagement est discuté la semaine dernière et qui a été annoncé à cette même conférence de presse par le ministre, c'était que le ministère s'engageait à couvrir ses frais. Il avait proposé à hauteur de 1,5 million et les partenaires allaient appuyer pour ce qui concerne la surveillance, l'équipement en kit choléra et la prise en charge des aspects de wash, donc eau, assainissement et hygiène. Bien sûr, dans l'immédiat, il y a le court terme. Mais dans le cadre du long terme, nous avons une réflexion globale pour harmoniser la motivation. Puisque quand on regarde les différentes provinces, nous avons des coûts différents. Et même les partenaires qui veulent intervenir ont des préoccupations par rapport à cette harmonisation. Mais pour ce cas particulier, la prise en charge est assurée au niveau des CTC et sera prise en charge par la réponse qui est en train d'être mise en place, qui sera opérationnalisée les prochains jours.
Merci beaucoup, docteur. Encore une question ou on passe à d'autres sujets? Est-ce qu'il y a encore des questions sur le choléra? Oui, RTNC.
Je vois.
Attendez, on a une question ici à Kinshasa. On prendra Goma après.
Merci, c'est faisant vous dire ça pour la RTNC. Florence, je vous ai posé dernièrement, le mercredi passé, la question sur la montée en flèche du choléra dans la ville de Bandundu, province de Kwilu. Et vous avez dit qu'il fallait que vous procédiez à une vérification de l'information. Et heureusement, je profite de la présence de l'expert de l'OMS pour poser la question. Oui, puisque vous êtes là, j'emprunte les termes utilisés dans les animaux malades de la peste. Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. 20 de 26 provinces de la RDC sont maintenant frappées. Et aujourd'hui, on en a 20, peut-être dans un mois, c'est toutes les 26 provinces qui seront affectées par cette maladie. Est-ce que cela vous inquiète? Pourquoi vous ne prenez pas les mesures? Pourquoi on ne sent pas la mobilisation comme c'était le cas pour la fièvre hémorragique d'Ebola? Merci.
Je vous remercie. Je crois que deux des éléments que vous voulez soulever trouvent déjà réponse. En fait, la préoccupation soulevée la semaine dernière près de Florence a été répercutée à notre niveau. Oui, la préoccupation est prise au sérieux. Notamment, il y avait un aspect de cette question, c'était est-ce que le Kasaï était à risque? Oui, le Kasaï est à risque, mais actuellement, il n'y a pas de cas dans les Kasaï. Et justement, la question de Bandundu est une des portes d'accès au Kasaï. Donc, à Kwilu, précisément, il y a une investigation qui a été faite, une évaluation des cas, et il y a une mission du ministère de la Santé qui est en train de se déployer pour renforcer la coordination et la réponse au niveau de Kwilu. Nous avons aussi d'autres préoccupations du côté de Holomami, avec des nouveaux cas, qui en fait c'est des nouvelles zones, et bien sûr dans la zone de Manema. Donc ça c'est en dehors des zones anciennement affectées par la maladie. Donc la préoccupation c'est d'éviter que cette maladie soit accrue, gagne en intensité et en espace. Donc les actions que nous sommes en train de mener sont de deux ordres. Une réaction immédiate pour les cas en termes de sapeurs-pompiers, mais aussi en termes de prévention pour prémunir la zone du Kasaï. Bien sûr, les activités se continuent d'être menées dans les zones anciennement affectées, notamment dans l'est du pays, donc à Goma, Sud Kivu, Ituri, qui sont des zones considérées comme endémiques. Déjà même à Kalemi, il y a un programme de vaccination qui est en train d'être mis en œuvre par la MSF et la Direction provinciale de la santé pour pouvoir vacciner près de 320 000 personnes affectées par la crise et par les déplacements. Donc la préoccupation est prise au sérieux et au niveau du gouvernement, les actions effectivement sont prises dans ce sens. Avec la coordination dont je viens de parler tantôt, elle est mise en place et renforcée au niveau national, mais aussi au niveau des provinces.
Merci docteur. On va partir à Goma, si vous le voulez bien. Goma, une question?
Oui, Patrick.
Oui, moi je vais poser au BCNDH. Hein. C'est Patrick Félix Abeli pour Casinfo. Vous publiez régulièrement les rapports des violations massives des droits de l'homme, M. Aranaz, mais en même temps, ce BCNIDH appuie les services étatiques de l'ordre que des fois vous accusez de pouvoir être à la base de la grande tendance des violations. Est-ce que ne fallait-il pas aussi arrêter cet appui, d'autant plus que nous allions dire que vous appuyez aussi cette violation, parce que la matière que vous dispensez n'est pas du moins respectée?
Merci beaucoup. C'est une très bonne question et je pense à suivre une question qui a été posée du côté de Goma dans la dernière conférence de presse. Vous avez raison, comme vous savez bien, notre travail ici, c'est de donner l'appui aux institutions de l'État et de renforcer les capacités des agents étatiques pour combattre les violations des droits humains. Il y a un grand problème de la situation des droits humains où la majorité des violations étaient commises par les agents étatiques. Mais nous avons aussi un système de communication avec les gouvernements pour prendre l'action contre les auteurs de violations des droits de l'homme. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, il y a une politique au niveau général des Nations Unies que j'évoquais dans les autres conférences de presse qui s'appelle la politique des droits de l'homme VOLU, HRDDP en anglais, qui était en vigueur pour toutes les opérations des Nations Unies, et à travers de laquelle nous ne donnons pas l'appui aux unités, aux officiels de l'armée ou bien de la police qui sont impliqués dans les violations des droits humains. Ça veut dire, avant qu'il y ait une requête d'appui du côté de la PNC ou bien de l'armée, nous faisons une évaluation des risques et nous faisons une enquête sur toutes les unités et les officiers qui sont impliqués dans cet appui. Et s'il y a des individus qui sont impliqués ou qui ont été impliqués dans les violations des droits humains, ils seront exclus de l'appui. Et ces individus seront rapportés aux autorités pour prendre l'action. C'est pour éviter que l'appui des systèmes des Nations Unies soit utilisé pour la commission des violations des droits humains.
Merci, José Maria. On avait pris deux questions à Kinshasa, donc on va retourner à Goma pour rétablir l'équilibre. Goma, vous avez une nouvelle question. On vous écoute. Donc c'est Goma qui a la parole.
Moi c'est Jérémy de la radio Taïna Goma. Nous venons d'apprendre à notre confrère de Michapi Voice TV qui est à Walikale qui vient de nous annoncer que la radio Kapi a fermé ses portes il y a deux jours. Mais aussi c'est la base de la MONUSCO qui était en train d'alimenter une radio locale en énergie électrique. Nous savons très bien que vous avez la bonne foi quand vous quittez le terrain, vous laissez quand même un projet à impact qui va rester dans les milliers. Alors, que pensez-vous par rapport à cette population qui ne sera plus informée?
Merci beaucoup pour cette question. Effectivement, j'ai vu cette information. Radio Okapi ne va pas disparaître de Walikale. Actuellement, nous travaillons pour pouvoir avoir un émetteur sur place dans des conditions de sécurité suffisantes. Mais la volonté des Nations Unies et de la MONUSCO est de laisser Radio Okapi continuer à émettre dans Walikale, si je peux vous rassurer là-dessus. En revanche, pour ce qui est de la collaboration avec la radio locale, je n'ai pas d'informations avec moi. Et permettez-moi de revenir vers vous la semaine prochaine avec une réponse sur ce qu'il arrivera à cette radio. Je vais prendre une question ici à Kinshasa, madame de RTNC2.
RTNC2 Développement, Laetitia Massela. Florence, le Congolais se trouve aujourd'hui réfugié en Angola, fuyant le violence au Kasaï. Quel est l'état de lieu de la présence de réfugiés congolais en terre angolaise? Quelles sont les principales contraintes auxquelles ils se butent? Merci.
Alors, je vais céder la parole à Andreas Kirchhoff, qui est le chargé de communication pour le Haut Commissariat des Réfugiés. Andreas.
Hop. Bonjour. Les HCR, dans les derniers mois, ont enregistré ensemble avec les autorités angolaises environ 33 000 réfugiés congolais. Actuellement, il y a un projet de transfert de ces réfugiés plus loin de la frontière et se trouvent dans deux centres de transit ils vont être invités à rejoindre un site qui se trouve à plus de 100 km de la frontière entre Angola et RDC, et les transferts de ces personnes sont en cours. Bien sûr que tout cela est volontaire, et on a constaté que certaines réfugiés ont regagné de leur propre initiative la RDC. Il est à constater que nous ne savons pas combien de ces 33 000 personnes enregistrées sont rentrées. Il y a quelques-uns, mais on ne sait pas les chiffres exacts. Il y a aussi des personnes qui n'étaient pas enregistrées en Angola qui sont rentrées. La situation de certaines de ces anciens réfugiés est préoccupante parce qu'ils n'arrivent parfois pas à regagner leur lieu d'origine à cause des destructions massives ou à cause de leur perception de la sécurité ou insécurité. Et il y a des cas de personnes qui sont plus de la région frontalière en province de Kasaï qui se sont rendues, par exemple, dans la capitale, Chicapa, parce qu'ils n'ont pas l'impression qu'ils peuvent vraiment retourner à leur lieu d'origine. Donc là, il y a les défis de sécurisation et aussi reconstruction.
Merci beaucoup, Andrea. On va prendre une question à Goma, s'il vous plaît. Goma, vous avez une question? Oui, je vois des bras qui se lèvent. Merci. Merci de passer la parole aux journalistes.
Oui, c'est Frédéric de Radio. C'est Frédéric de Radio Sautienjili. Ma question, c'est en rapport avec la promesse de réhabilitation d'une route entre Walikale et Goma. Est-ce qu'on est en ligne?
La question, colonel, est-ce que vous avez des informations sur la réhabilitation de cette route au Walikale-Goma?
Oui, justement. Oui, Alors, donc, est-ce que vous ne craignez pas au niveau de la MONUSCO si la route sera en terre battue et qu'elle ne finisse pas comme celle qu'avait construit le gouvernement provincial entre Goma et Walikale, si ça sera rien qu'en terre battue?
Oui, je crois qu'effectivement, il y a une route, il y a une réhabilitation de cette route en question entre Walikale et Goma. Mais, je n'ai pas d'éléments pour rassurer le journaliste par rapport à ce qui va être fait dans l'immédiat ou dans le futur. Je vous remercie.
Merci, colonel. On essaiera d'ici la semaine prochaine d'avoir un petit peu plus d'informations sur qui est en charge de la réhabilitation et comment elle sera faite. On va prendre une question ici à Kinshasa. Mademoiselle.
Merci, Fabien. C'est Madame Elvira Banzou. Je suis journaliste à la radio-télévision à Louange. Il y a une organisation de jeunes de la majorité présidentielle qui battent une campagne depuis un moment à Kinshasa pour un possible référendum. Selon ces jeunes, au stade actuel, la révision de la Constitution représente une solution. Mais de l'autre côté, il y a aussi des jeunes de l'opposition qui viennent de créer un front contre les référendums. Donc, qu'adviendra-t-il de la RDC après la date du 31 décembre? La MONUSCO, en tant que partenaire de la RDC, peut nous éclairer par rapport à cette situation. Merci.
Oui, concernant la question du référendum, vous savez, on l'a répété souvent ici, que la MONUSCO a pour mandat de soutenir la mise en œuvre de bonne foi et complète de l'accord de la Saint-Sylvestre. Et cet accord, qui est le fruit d'un consensus entre la majorité et l'opposition, il est très clair. Il dit dans son article 2, les parties prenantes s'engagent à respecter la Constitution du 18 février 2006, telle que modifiée en 2011, et les lois de la République, à organiser élections présidentielles, législatives, nationales et provinciales, ainsi que les élections locales en conformité avec la dite Constitution. Nonobstant les dispositions de l'article 5, alinéa 1, elle s'engage à n'entreprendre ni soutenir aucune initiative de révision ou de changement de constitution. Ça, c'est le texte sur lequel les parties se sont entendues. Elles ont signé l'accord le 31 décembre. À ce jour, c'est le seul accord entre majorité et opposition qui est valide.
qui est signé par toutes les parties et il ne prévoit pas de révision de la Constitution, donc de référendum. Revenir sur cette décision qui a été prise de façon consensuelle, ça serait un retour en arrière. Avec une forte volonté politique, un esprit de consensus, les acteurs politiques congolais se sont entendus sur l'organisation d'élections présidentielles, législatives, provinciales. Et il faut que le même esprit de consensus, la même volonté politique prévale pour la mise en œuvre de l'accord. Nous restons donc sur la même ligne, c'est-à-dire que nous attendons la publication d'un calendrier et la mise en œuvre, comme je le disais, complète et de bonne foi de cet accord. Nous allons repartir à Goma, c'est chacun son tour. Goma, une question ? Ah, il n'y a plus Goma. Bon, ben alors, c'est tout pour vous. Samir AFP, je vous écoute. Samir AFP.
Merci, j'ai deux questions. Dans le prolongement de la précédente, confirmez-vous la tenue aux Nations Unies d'un sommet de haut niveau en marge de l'Assemblée Générale sur la République démocratique du Congo ce lundi 18 septembre ? Par ailleurs, permettez-moi une deuxième question. RFI, ce matin, sort de nouvelles, de ce que la radio présente comme de nouvelles révélations sur l'assassinat des deux experts onusiens dans le Kassai, notamment sur le fait qu'ils auraient été victimes d'agents doubles la veille lorsqu'ils préparaient leur expédition, leur déplacement dans la ville où ils ont été tués. Avez-vous une réaction à cette enquête de Sonia Rollet ? Merci beaucoup.
Merci Samir, c'est la première fois que vous assistez à la conférence de presse, normalement c'est une question chacun. Voilà. Donc oui, sur effectivement l'enquête très fouillée de RFI sur l'assassinat des deux experts onusiens, nous l'avons lu, nous en avons pris connaissance, mais il y a actuellement un procès en cours, et un procès que nous suivons avec une très très grande attention, mais pour le moment, nous nous réservons de commenter le cours de la justice. Ce n'est pas notre rôle. Les Nations Unies ont fourni aux autorités judiciaires congolaises toutes les informations en leur possession, notamment l'identité des 10 personnes identifiées et apparaissant dans la vidéo de leur assassinat. Un nombre d'entre eux sont sur les bancs des prévenus actuellement, mais pas tous. L'ONU espère que toutes les personnes impliquées dans ce meurtre seront traduites en justice. Et le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres lui-même, a dit que rendre justice, c'était sa priorité numéro un, et que dans ce cadre, il étudie la mise en place d'un mécanisme de suivi. Quel sera ce mécanisme ? On n'a pas encore les détails, mais en tout cas, l'affaire est loin d'être close. Est-ce que je vais prendre une question à Goma, puisque nous avons de nouveau la ligne ? Goma, je vois une main qui se lève. Pouvez-vous tendre le micro ?
Bon, merci, c'est Isaac Nguenza pour le compte de Congo Yalilo. Ma question s'adresse à Fabienne. À Butembo, le climat entre la population et les autorités de l'État va de mal en pire. Le vendredi passé, les étudiants ont séquestré le maire de la ville et ils réclament le départ de toutes les autorités gouvernementales dans leur territoire. Il parle de maire de la ville. Il doit partir, le commandant de la police, le commandant de FARDC et ANR aussi. Est-ce que cette situation ne préoccupe-t-elle pas la MONUSCO ? Merci.
Oui, merci beaucoup pour cette question. Effectivement, nous avons pu être témoins sur place de ce qui s'est passé à Butembo. La MONUSCO s'est déployée pour observer et rendre compte de la situation. Peut-être tout à l'heure, Rosemaria pourra nous faire un petit point. Mais ce que la MONUSCO voudrait réitérer encore une fois, c'est que même si le maintien de l'ordre dans le cadre de manifestations pacifiques est de la responsabilité de la police congolaise, il est important d'insister sur le fait que manifester pacifiquement, c'est un droit fondamental, constitutif des droits de l'homme. Donc il est important aussi que la PNC et les autres forces de sécurité comme de défense respectent les principes des droits de l'homme lors de ces interventions de maintien de l'ordre. Donc la MONUSCO fait son travail pour documenter ces violations. On va voir avec Rosemaria si vous avez quelque chose sur le cas particulier de Butembo.
On suit la situation à Butembo. Nous sommes très préoccupés par la détérioration de l'ambiance de sécurité là-bas et nous sommes en train de compléter notre enquête, mais comme Tu as bien dit, Fabien, en tout cas, les questions de manifestations pacifiques, il faut les garantir. On complète notre enquête de toute la violence qui s'était passée là-bas. On suit la détérioration de la situation sécuritaire à Butembo et nous espérons aussi une réaction proportionnelle du côté des autorités. Mais surtout, de notre côté, comme toujours, on insiste dans les caractères pacifiques des manifestations comme un préalable pour les garantir les droits à la manifestation. Merci.
Alors, on va prendre une question à Kinshasa. Monsieur avait la main levée depuis très longtemps. On va vous passer la parole.
Oui, moi, c'est Kenny pour l'agence Reuters. Il a été question de l'arrivée des enquêteurs de l'ONU pour l'assassinat des deux experts. Qu'en est-il? Sont-ils déjà arrivés? Et c'est le nom informé du rapport final.
Je pense qu'il y a deux choses différentes. Il y a effectivement des experts qui arrivent, mais ce n'est pas pour enquêter sur la mort des experts. Il y a beaucoup d'experts dans cette affaire. C'est le Haut Commissariat aux droits de l'homme, donc Rosemaria pourra vous en dire un petit peu plus, qui envoie des experts pour enquêter sur les violations des droits de l'homme dans les Kasaï. En général, ce n'est pas pour enquêter sur la mort des deux experts. Donc c'est ce groupe qui va arriver prochainement. Je passe la parole à Rosemaria pour des détails.
Oui, le mandat priorité des groupes des experts qui étaient mandatés par les conseils des droits humains à Genève, c'est les violations des droits humains en général qui sont passées au Kasaï. Sur la question des experts, il y a les mécanismes de suivi qui étaient en train d'être discutés, qui étaient mandatés par les secrétaires généraux. Mais les mandats des groupes des experts qui sera déployé dans les prochaines semaines au Kasaï, à la RDC, c'est pour les violations des droits humains en général, les graves violations des droits humains commises par tous les partis au Kasaï.
Voilà, bon, c'est pas toujours effectivement très simple parce qu'il y a beaucoup de groupes qui s'appellent groupe d'experts. Il y a le groupe d'experts qui s'occupe de veiller à ce que le comité des sanctions, que les décisions soient appliquées. Il y a le comité des experts qui vont venir pour les violences et les violations des droits de l'homme au Kasaï. Donc, effectivement, c'est pas très, très simple. En ce qui concerne l'enquête sur le décès des deux experts, donc, comme le disait Rosemaria, un mécanisme de suivi sera mis en place et la justice est en train de poursuivre son cours. Nous insistons sur le besoin de justice dans cette affaire. Je vais prendre une question à Goma. Goma, est-ce que vous avez une question? Vous pouvez faire passer le micro rapidement, s'il vous plaît. Goma, on vous écoute.
Merci. Moi, c'est Jeanne Chabani de Michapi Voice TV. Je pose la question au colonel Haig par rapport aux déplacés épilsés des déplacés Hutu, épilsés qui venaient de Lubero. Ils ont 3 jours maintenant devant les bureaux du maire de la ville, ici à Goma. Ils n'ont pas d'assistance ni de la part de la MONUSCO, ni de la part du gouvernement provincial. Qu'en pensez-vous?
Je ne crois pas que ce soit une question, excusez-moi d'intervenir, mais je ne crois pas que ce soit une question qui relève de la partie militaire. Est-ce que... Non. On va vous demander de patienter un petit peu, de nous contacter peut-être dans l'après-midi. Sinon, nous reviendrons avec une réponse à cette question mercredi prochain. Madame, je passe la parole ici à Kinshasa.
Ma question s'adresse à Fabienne, c'est Christiane Ekambo pour le journal des nations.net. Madame Fabienne, en ce qui concerne l'exploitation des minerais en RDC, il semble qu'il y a des documents qui circulent au nom de la MONUSCO. Qu'est-ce que vous en dites?
Oui, absolument. Il nous est parvenu des documents qui sont manifestement des faux parce que les logos ne sont pas ce qu'il faut, les signatures ne correspondent pas à du personnel des Nations Unies, et surtout, ce qui est quand même le plus important, c'est que la MONUSCO ne fait pas de certification. C'est pas dans notre mandat, c'est pas dans nos capacités. Donc, si un document circule, qui soit un certificat d'importation ou d'exploitation de minerais portant le logo de la MONUSCO et des signatures MONUSCO, c'est forcément un faux, puisque nous n'en délivrons pas. Voilà. Donc, voilà, ce sont des tentatives de fraude où on utilise le nom de la mission. Et c'est pour ça que nous avons fait un communiqué de presse, je crois que c'était vendredi dernier, afin de clarifier les choses, et que toute personne qui se retrouve en possession de documents avec un tampon ou un logo ou une signature soi-disant de la MONUSCO peut être sûre à 100% que c'est un faux en ce qui concerne la certification des minerais. Merci de cette... Pardon ? Oui, nous essayons toujours de savoir qu'est-ce qui se passe. Merci beaucoup. Je vais prendre une autre question à Goma. Et puis, ce sera la dernière et elle sera courte, s'il vous plaît.
Caleb.
Dépêche, il reste 3 minutes.
Oui, moi, c'est Caleb Kabanda, journaliste indépendant. Ma question s'adresse à Fabienne. L'opposition congolaise, le mouvement citoyen, la société civile, attaque que la CENI puisse publier le calendrier électoral à la fin du mois de septembre. Faute de quoi, ils sont prêts à organiser des actions pacifiques à grande envergure. La MONUSCO est un partenaire de la RDC, une force de maintien de la paix. Qu'est-ce que vous allez faire pour empêcher que le pire, le chaos, n'arrive à l'instar du 19-20 septembre de l'année passée?
Merci beaucoup pour cette question. C'est toujours la question des, effectivement, des manifestations et du maintien de l'ordre. Comme on l'a répété déjà tout à l'heure, il est important que les manifestations, quand elles sont organisées, soient pacifiques, qu'il n'y ait pas de débordement, qu'il n'y ait pas de violence. Et il est important, de l'autre côté, que les moyens utilisés pour encadrer ces manifestations soient proportionnels, ne violent pas les droits de base, le droit d'expression et le droit de manifester. Et il est important, dans une période comme celle-ci, que l'espace de liberté d'expression reste ouvert. Pour que chacun puisse s'exprimer, l'important étant effectivement de s'exprimer de façon pacifique. Voilà, ça, on va mettre un terme à cette conférence de presse. Je voudrais demander aux journalistes à Kinshasa de rester dans la salle parce que j'ai une petite annonce à faire. Je vous dis au revoir, peut-être à bientôt. Nous disons au revoir aussi aujourd'hui à Rosé Maria Aranas qui est appelée à d'autres fonctions et quitte bientôt la RDC. Je vous remercie à tous de votre attention et à bientôt sur les ondes de Radio Capi.